Le journal Anne-Laure Chouin. Bonjour Anne-Laure.
Bonjour Chloé, bonjour à toutes et à tous. Nous reviendrons sur cette fameuse LPPR dont il est question ce matin avec vos invités, avec les réactions critiques de deux acteurs du monde de la recherche. Bruno Canard, dont il a été question ce matin, mais que nous entendrons, donc spécialiste des coronavirus, directeur de recherche au CNRS, et Nathalie Lallemand, jeune maître de conférence en gestion à la Sorbonne. Cette loi qui va encadrer le fonctionnement de la recherche en France ces prochaines années est l'objet d'une fronde massive des enseignants-chercheurs.
La loi contre les violences conjugales, définitivement votée hier au Sénat, avec désormais la possibilité pour les médecins de lever le secret médical en cas d'urgence sans l'accord de la victime.
L'actualité à l'étranger, c'est l'attitude martiale de Donald Trump qui a envoyé des forces fédérales à Portland, dans l'Oregon, pour mater les manifestations contre les violences policières. Il menace de faire de même dans d'autres villes démocrates.
L'Argentine continue de se débattre avec sa dette. Plusieurs fonds étrangers ont refusé dernièrement les propositions du président argentin pour la restructurer. Alberto Fernandez dit ne pas pouvoir faire plus d'efforts.
Contre la multiplication des coupes rases ou coupes à blanc dans les forêts françaises, une proposition de loi est en construction portée par plusieurs collectifs et des députés pour tenter de mettre fin à ce phénomène dévastateur aussi bien pour les paysages que pour les forêts elles-mêmes. Ses forces et son intelligence collective apparaissent plus que jamais indispensables en ces temps où, entre autres recherches, on attend beaucoup de celles sur un vaccin qui pourrait freiner l'épidémie de coronavirus. Le monde de la recherche, qui en France se fait souvent assez discret, donne pourtant de la voix depuis plusieurs mois. En cause, la LPPR, la loi de programmation pluriannuelle de la recherche, présentée en Conseil des ministres aujourd'hui. Les syndicats et plusieurs collectifs insistent sur la façon dont elle risque, à leurs yeux, d'aggraver les maux dont souffre déjà le monde de la recherche et de l'enseignement supérieur. Ils estiment que les 25 milliards d'euros prévus par cette loi risquent de se concentrer sur quelques universités, laboratoires ou personnes au détriment du milieu qui permet l'éclosion de ces stars de la recherche. C'est ce que déplore notamment Bruno Canard, directeur de recherche au CNRS à Marseille, spécialiste des virus émergents. Il travaille sur le corona depuis 2002. Lui craint qu'on ne privilégie la recherche ciblée comme cette aide d'un milliard d'euros qui a été donnée à Sanofi pour trouver un vaccin anti-Covid malgré 1400 en suppression de postes, au détriment donc de la recherche fondamentale. Écoutez Bruno Canard, interrogé par Hakim Kasmi.
Si vous voulez mettre par exemple un médicament au point, une fois que vous avez diagnostiqué quelqu'un autour d'un cluster, vous pouvez distribuer un médicament, il faut que ce médicament soit absolument sûr, il faut qu'il y ait un diagnostic qui ait été fait. Tout ça par exemple, c'est de la recherche en biochimie, en biologie structurale, en chimie médicinale. Ce sont des recherches qui sont faites dans tous les laboratoires de l'INSERM, du CNRS, des universités, de l'INRAE. Les chercheurs se parlent, accumulent des données là-dessus qui sont ensuite transférées au milieu industriel qui va utiliser, faire des tests, des kits, des vaccins, des médicaments, voilà. Mais si vous n'avez pas la première partie, vous n'aurez pas la seconde.
Et les 1 milliard pour Sanofi ne suffiront pas.
Les milliards pour Sanofi, on va espérer que ça suffit, mais moi je constate simplement une disparité d'au moins deux logs, 100 fois plus d'argent à dépenser parce que ça correspond à une tradition bien française, parce que les autres voies de soutien de la recherche ne sont pas forcément vraiment ni exploité ni mise en avant sur le long terme. Voilà, je pense que il est nécessaire que la recherche vaccinale s'appuie sur une très bonne recherche fondamentale.
La loi prévoit d'augmenter par ailleurs de 1 000 euros bruts par an le salaire des jeunes enseignants-chercheurs et de créer notamment une chaire jeune chercheur, sorte de CDD longue durée. La précarité de ces chercheurs qui se font de moins en moins jeunes étant en effet un sujet récurrent dans le milieu. Pour Nathalie Lallemand, STEMPAC, maîtresse de conférence en gestion à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, ce type de mesure ne suffira pas à réduire la précarité. Écoutez-la.
On a le sentiment que le projet de loi va augmenter en fait la précarité des jeunes chercheurs en allongeant la durée de temps qu'il va falloir attendre avant d'espérer avoir un contrat pérenne en tant que chercheur, en ajoutant des années de postdoctorat, de maître de conférence sous contrat à durée déterminée, des contrats de mission. Donc c'est encore de temps qui s'ajoute au temps de la thèse en fait qui est déjà assez long.
Alors la ministre indique qu'elle va augmenter notamment de 1 000 euros brut hein, les jeunes chercheurs. Selon vous, c'est insuffisant?
Je pense que plus que d'une augmentation, on aurait besoin de postes, en fait. C'est vraiment ça qui manque cruellement aux jeunes chercheurs. En fait, c'est des postes pour d'autres jeunes chercheurs. Il faut que les jeunes chercheurs aient du temps pour eux-mêmes se consacrer sur leur métier, leur mission, faire de la recherche. Et aujourd'hui, les moyens manquent. Alors, à la fois, il manque de chercheurs, mais il manque de personnel administratif. Et s'il y avait de l'argent à allouer, ce serait plutôt, à mon avis, dans la création de postes massivement à l'université.
Nathalie Lallemand, STEMPAC, maîtresse de conférence en gestion question à la Sorbonne. Voilà sur ce sujet de la LPPR, sur laquelle nous reviendrons également dans nos prochaines éditions. Le Ségur de la Santé s'est conclu hier par une série de mesures annoncées par Olivier Véran, le ministre de la Santé. 50 millions d'euros sont prévus pour créer 4000 lits d'hôpital à la demande et le financement des établissements de santé va être revu avec notamment en vue la réduction de la tarification à l'activité, cette T2A très décriée qui fixe les ressources de l'hôpital en fonction des actes effectués et qui est accusée de pousser les directions des hôpitaux à faire du volume. Au final, ce sont 33 mesures qui ont été actées. Autre dossier qui trouve son issue, le Sénat a adopté hier la proposition de loi destinée à mieux protéger les victimes de violences conjugales. Il s'agit du deuxième volet législatif d'un arsenal qui fait suite au Grenelle sur les violences conjugales, piloté en automne 2019 par Marlène Schiappa. Ce texte introduit notamment une exception au secret médical en cas de danger immédiat. Les explications avec Antoine Marette.
Désormais, le médecin ou tout autre professionnel de santé pourra déroger au secret professionnel lorsqu'il estimera en conscience que les violences mettent la vie de la victime en danger et qu'il y a une situation d'emprise. Une disposition nouvelle qui touche à un pilier de la relation entre le médecin et son patient. Mais pour Jérôme Moreau, président de l'association France Victimes 58, c'est une disposition indispensable.
L'intérêt de la proposition, c'est qu'elle est modérée en ce sens où c'est une possibilité et que le médecin dispose d'un choix. Alors évidemment, nous pensons qu'il faut que les médecins s'emparent de cette proposition législative et qu'ils puissent éventuellement agir de concert avec nos associations qui sommes les spécialistes de cette question puisque nous travaillons quotidiennement avec les procureurs de la République.
Parmi les inquiétudes soulevées par une levée du secret médical sans l'accord de la victime, c'est que le lien de confiance entre le médecin et son patient soit altéré.
C'est une possibilité que je ne nie pas, mais je n'en suis pas sûr parce que, en fin de compte, on va porter assistance et secours. Ce qu'on peut voir sur des expérimentations au niveau local qui sont faites notamment à la Maison des Femmes du 93, lorsqu'il y a une demande de repérage systématique, ça n'altère pas les relations. Donc il n'y a pas de raison que ça les altère. Au contraire, je pense que là, on va amorcer une démarche de protection, ce qui sera au bénéfice des victimes et in fine, ce qui peut renforcer la confiance entre le praticien et la victime.
Car l'objectif de cette proposition de loi, c'est de répondre aux cas urgents et de sauver des vies. L'année dernière en France, 149 femmes sont décédées sous les coups de leurs conjoints.
France Culture 8h08, Anne-Laure Chouin. Aux États-Unis, Donald Trump tente d'enrayer comme il peut sa chute continue dans les sondages, notamment en faisant mine de prendre plus au sérieux la gravité de la crise du coronavirus qui fait beaucoup de dégâts ces derniers jours.
Oui, après une relative accalmie, le chiffre des cas et des décès est en hausse constante et après avoir pris à la légère la nécessité des gestes barrières, le président américain a reconnu hier que la situation était grave, un retournement de situation sans doute dû à des considérations électoralistes, tout comme cette autre politique menée par Donald Trump dans les villes qui expérimentent toujours des manifestations contre les violences policières. La présidence a envoyé en effet des agents fédéraux, des forces spéciales à Portland notamment, pour réprimer ces manifestations. Alors que ce sont les villes qui ont normalement la charge de maintenir l'ordre, il se trouve que Portland est un bastion démocrate. Le récit de Loïc Piala.
À l'approche de l'élection présidentielle, le message de campagne de Donald Trump est clair. Je défends la loi et l'ordre face à une gauche hors de contrôle. Il a pris en exemple Portland, où des débordements ont régulièrement lieu en marge des manifestations contre les violences policières. Comme il estime que le maire et la gouverneure, tous les deux démocrates, ne font rien, il a envoyé sur place des agents sous son autorité. En l'occurrence, des hommes et des femmes normalement postés à la frontière entre le Mexique et les États-Unis. Problème, ces agents ne seraient pas clairement identifiés, ils conduiraient des voitures de location et procéderaient à des arrestations sans justification. Choqués par des vidéos postées sur les réseaux sociaux, des mères de famille de Portland se sont mobilisées. Elles forment chaque soir le mur des mamans en espérant protéger la foule et son droit à manifester des gaz lacrymogènes. Résultat, cette foule d'une centaine de personnes la semaine dernière dépasse désormais le millier. Critiquée par les autorités locales, l'administration Trump ne compte pas renoncer et prévoit même d'envoyer des agents à Chicago, autre ville tenue par les démocrates.
C'est une histoire sans fin, celle de l'Argentine et de sa dette. De nouveau, le pays tente d'éviter le défaut de paiement. Une situation déjà vécue en 2001, puis 2008, puis à nouveau ces derniers mois. En 2018, l'ex-président Macri avait surendetté le pays auprès du FMI et de créanciers privés. Depuis l'arrivée du nouveau président Alberto Fernandez, le gouvernement tente de dialoguer pour restructurer cette dette. Mais cette semaine, l'offre de l'Argentine a été rejetée par d'importants fonds d'investissement étrangers. Une offre qui semblait pourtant être la dernière limite du gouvernement. La correspondance à Buenos Aires de Caroline Vic.
Le destin d'Alberto Fernandez est décidément de renégocier la dette argentine. Chef de cabinet en 2003 de Néstor Kirchner après la crise de 2001, il était déjà au centre des tensions et aujourd'hui c'est en tant que président qu'il s'attaque au problème. Après des mois de négociations, l'Argentine est arrivée à la limite de ses possibilités. Alberto Fernandez, hier, lors du Conseil des Amériques face à 1000 chefs d'entreprise et hommes politiques du continent.
Nous ne sommes pas là pour entrer en conflit avec qui que ce soit. Nous sommes là pour tenter de résoudre la situation. Nous avons fait un effort énorme. On continue même à négocier la dette alors que la pandémie continue de nous frapper. Il est impossible de demander à un pays qui a 40% de pauvreté qu'il fasse un nouvel effort parce que cet effort retombera sur les secteurs les plus vulnérables. Ce qu'on a proposé, c'est notre limite. On ne peut pas plus. Ce n'est pas un caprice, c'est du bon sens.
La posture du président est claire, cette offre semble être la dernière. Au-delà, l'Argentine pourrait d'abord ne pas se relever et ensuite ne serait pas en mesure de respecter ses engagements. Fernandez appelle donc à la compréhension des créanciers et à la poursuite du dialogue. Les fonds d'investissement ont jusqu'au 4 août pour donner leur réponse.
En Russie, un historien spécialiste des purges staliniennes et de la terreur communiste attend d'être fixé sur son sort aujourd'hui. Youri Dmitriev est accusé d'agression sexuelle et risque une peine de 15 ans de prison ferme, des accusations qu'il réfute. Youri Dmitriev a en effet déjà été blanchi par la justice d'autres accusations, notamment de pédophilie. Ce ne serait pas la première fois que le régime russe utiliserait de fausses accusations pour éloigner des personnes critiques du régime et de ses actions passées, notamment les actions des services secrets russes. À Moscou, le reportage de Jean-Didier Revoin.
Au fil des années, les travaux de Youri Dmitriev lui ont permis d'enregistrer les noms de milliers de personnes mortes dans les camps ou fusillées par le régime soviétique en Carélie. Pour l'historienne Irina Karatsuba, la question désormais posée est celle de la responsabilité de ces massacres.
Il n'y a pas de criminels, on ne comprend pas d'où viennent ces tragédies, ces meurtres, qui a tué et sur quelle base. Quelle attitude sommes-nous supposés avoir aujourd'hui concernant les pratiques du meurtre de masse et des fusillades ?
Pointer le rôle du NKVD, devenu KGB et aujourd'hui FSB, à l'heure où l'un de ses membres occupe le Kremlin depuis 20 ans, n'est pas chose aisée. Près de 30 ans après l'effondrement de l'Union soviétique, ni le Parti communiste, ni les services n'ont fait leur autocritique. Bien au contraire, Irina Karatsuba.
Il y a 7 ou 8 ans, un article de Tcherkessov, bras droit de Poutine, disait que le tchéquisme devait devenir notre idéologie, que la Russie avait survécu aux années 90 en saisissant la bouée de sauvetage que sont les tchéquistes.
En fait, les autorités reprochent à Youri Dmitriev d'avoir éclairé le sombre rôle joué par les services et d'avoir affirmé publiquement le retour d'une forme de terreur politique au sein de l'État russe. Irina Karatsuba.
Dmitriev est choisi ici comme une cible pour faire peur, pour montrer ce qui pourrait arriver à ceux qui soulèvent de telles questions.
La question désormais, c'est de savoir si Youri Dmitriev est copera d'une peine ferme avec sursis ou d'une amende.
Jean-Didier Revoin. On termine ce journal avec un phénomène dont vous avez certainement été témoin lors d'une balade à la campagne ou en forêt. Les coupes rases, ces coupes de tous les arbres d'une même parcelle, mettant le sol à nu par des engins mécaniques qui instabilisent le sol. Ces coupes rases ou coupes à blanc sont souvent effectuées dans des forêts de monoculture. Elles pourraient faire l'objet à la rentrée d'une proposition de loi cadre. C'est ce qu'essaye en tout cas de mettre en place la députée France Insoumise Mathilde Panot aux côtés de citoyens d'une intersyndicale de l'ONF, l'Office national des forêts, ainsi que d'autres parlementaires. Écoutez Mathilde Panot au micro de Véronique Reberotte.
Aujourd'hui, c'est le symbole d'une industrialisation des forêts, c'est-à-dire d'un système qui, comme l'agriculture dans les années 50, est basé sur un modèle qui est la plantation, la monoculture et les coupes rases. Et les coupes rases ont un effet extrêmement néfaste, à la fois sur la libération de carbone, parce que beaucoup du carbone est contenu dans le sol, et donc les coupes rases libèrent une partie du carbone et donc sont néfastes pour le changement climatique, mais sont aussi néfastes pour la biodiversité, pour le filtrage des eaux. En tout cas, c'est une catastrophe écologique, il faut arrêter de faire ces coupes rases. Aujourd'hui, on n'a pratiquement aucune réglementation sur les coupes rases. Donc les industriels peuvent faire ce qu'ils veulent. Nous, ce que nous disons, c'est que au-dessus de 2 hectares, c'est interdit de faire une coupe rase. phrase, sauf s'il y a une impasse sanitaire avérée, mais que nous avons précisément définie dans la loi pour qu'on ne puisse pas en faire une pratique industrielle de la forêt où finalement la forêt n'est plus multifonctionnelle, n'est plus à la fois un espace de loisirs, d'abri de biodiversité qui capte du carbone, mais devient un simple gisement de bois et qu'on utilise seulement de manière économique. C'est très dangereux pour l'avenir de ce qu'on veut faire de nos forêts françaises.
La députée Mathilde Panot et au-dessus des arbres, la couleur du ciel de ce mercredi 22 juillet. Retour de l'instabilité dans le sud-ouest, sur les reliefs et dans le nord-est. Au nord de la Loire, le ciel sera lumineux. Des nuages sont attendus sur le sud-ouest ce matin, puis dans la journée jusqu'au nord-est. Les températures, au meilleur de la journée, il fera de 20 à 36 degrés du nord au sud.